Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de Diabète 66. Le podcast de Diabète 66, c'est le podcast hebdomadaire qui décrypte avec vous l'actualité sur le diabète. Ce podcast vous est présenté par l'équipe médicale du service endocrinologie du centre hospitalier de Perpignan, dirigé par le docteur Muriel Bénichou, accompagné par les docteurs Amina Radaoui, docteur Nelly Montignera et docteur Céline Hyde.
Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Muriel Bénichou, chef du service d'endocrinologie du centre hospitalier de Perpignan. Bienvenue dans cette nouvelle émission qui a pour thème les complications méconnues du diabète. Alors, comme vous le savez, on parle souvent des complications oculaires du diabète, des complications rénales, neurologiques ou cardiovasculaires, mais on parle moins de certaines complications comme les complications cutanées, rhumatologiques ou hépatiques. Je pense en particulier à la stéatose hépatique, hépatite non alcoolique, qui peuvent être très invalidantes et entraîner des conséquences très négatives chez les patients diabétiques. Donc comme à l'accoutumée, je démarrerai par une réponse aux questions qui m'ont été posées durant la semaine. Et par la suite, je répondrai à vos questions en direct. Donc, je démarrerai par une première question qui m'a été posée par Arnaud concernant les complications rhumatologiques du diabète. Peuvent-elles toucher l'ensemble des articulations ou existe-t-il des sites de prédilection ? Alors, comme vous le savez peut-être, le diabète, par l'hyperglycémie chronique qu'il entraîne souvent, va entraîner la production de produits de dégradation du glucose, qu'on appelle les produits de glycation, qui vont se déposer sur le collagène des structures articulaires et périarticulaires et être responsable d'une diminution de l'élasticité, de la souplesse de ces tissus et entraîner donc ce qu'on appelle les syndromes d'enraidissement articulaire. Donc ces syndromes d'enraidissement articulaire, ils ont effectivement des sites de prédilection puisqu'ils touchent plus nettement les épaules et les mains. Donc on a la capsulite rétractile de l'épaule, beaucoup plus fréquente chez le patient diabétique que dans la population générale, donc pour ce qui est de l'épaule. Et pour ce qui est de la main, on a la kéroarthropathie diabétique dont on reparlera, puisqu'elle a été l'objet d'une question posée, le syndrome du canal carpien, également les doigts à ressaut ou encore la maladie de Dupuytren. Et puis, en dehors de ces syndromes d'enraidissement articulaire, le diabète va également être responsable de ce qu'on appelle l'ostéoarthropathie nerveuse ou maladie de Charcot, qui là va toucher essentiellement le pied. Donc cette maladie de Charcot, elle est souvent d'origine neuropathique, donc elle est associée à une neuropathie et elle va entraîner d'abord un œdème indolore du pied, puis des phénomènes de destruction osseuse et de reconstruction osseuse anarchique qui vont être responsables de déformations majeures du pied et malheureusement souvent de plaies de pied, voire même de risque d'amputation chez le patient diabétique. Et puis, on sait maintenant, à travers certaines études, que le diabète serait associé à une augmentation de la prévalence de l'arthrose. Là encore, cette question sera traitée ultérieurement. Deuxième question d'Emmanuel, qui me demande de lui parler de la kéroarthropathie diabétique. Donc, la kéroarthropathie diabétique, c'est un syndrome d'enraidissement articulaire qui va toucher donc la main, qui démarre en général au niveau du cinquième doigt, avec une extension progressive aux articulations interphalangienne, puis métacarpophalangienne, jusqu'à l'index, avec une mise en flexum des doigts de la main, et donc une réduction de la mobilité des doigts, que ce soit en flexion et surtout en extension. Et cette limitation articulaire s'associe souvent à une sclérose, c'est-à-dire un épaississement cutané au niveau des doigts qui ressemble un peu à ce qu'on appelle la syndactylie que l'on retrouve dans la sclérodermie. Donc le diagnostic de cette chéropathie diabétique se fait essentiellement par la clinique, par ce qu'on appelle le signe de la prière, c'est-à-dire que lorsqu'on demande au patient de joindre les deux mains, il en est incapable à cause du flexum des doigts. Et puis on a également ce qu'on appelle, il y a un défaut d'extension de la main. Lorsqu'on demande au patient d'apposer la main sur la table, eh bien, il en est incapable. Donc cette chéropathie diabétique touche les diabétiques de type 1 et de type 2, mais surtout les diabétiques de type 1, souvent des diabétiques de type 1 avec une ancienneté de diabète importante, souvent un diabète mal équilibré, et c'est souvent associé également à des complications micro-angiopathiques, donc soit ce qu'on appelle une rétinopathie diabétique, une atteinte oculaire, ou rénale, éventuellement une neuropathie diabétique également. Donc le traitement de cette chéroarthropathie diabétique se limite malheureusement à simplement une équilibration du diabète et à une rééducation pour essayer de la physiothérapie, notamment pour essayer d'améliorer la mobilité de la main. Parfois, on est parfois amené à faire ce qu'on appelle des traitements chirurgicaux de ténolie, c'est-à-dire de libération en fait des tendons pour permettre de retrouver une certaine mobilité de la main. Troisième question de CAD qui demande si l'hyperglycémie majore le risque d'infection ostéo-articulaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le diabète, lorsqu'il est déséquilibré, il va entraîner une altération de la fonction des cellules qui nous permettent de nous défendre contre les infections, qu'on appelle les polynucléaires neutrophiles, ce qui va se traduire par une augmentation de la sensibilité aux infections. Donc effectivement, les infections ostéo-articulaires sont plus fréquentes en cas de diabète déséquilibré, mais il en est de même pour toutes les infections, notamment les infections cutanées également, qui sont plus fréquentes en cas de diabète déséquilibré. Quatrième question de Brigitte qui demande si le risque de fracture ostéoporotique est majoré chez les patients diabétiques. Alors là, la question n'est pas totalement tranchée parce que les études sont assez controversées. En tout cas, ce qu'on peut dire quand même, c'est que chez le diabétique de type 1, il pourrait y avoir modifications le stress oxydatif et les produits de glycation du diabète dont je vous parlais tout à l'heure pourraient altérer la micro-architecture osseuse et favoriser donc chez le diabétique de type 1 une augmentation de la prévalence des fractures ostéoporotiques. Chez le diabétique de type 2, c'est différent parce que le diabète de type 2 est souvent associé à un surpoids et une obésité qui, elle, au contraire, a tendance à augmenter la densité minérale osseuse et donc à plutôt protéger contre l'ostéoporose. Cinquième question d'Olivier qui dit que le diabète est considéré comme un facteur prédictif d'arthrose. Il demande s'il y a des sites de prédilection de l'arthrose en cas de diabète. Alors, vous avez raison, Olivier. Le diabète est maintenant considéré comme un facteur prédictif d'arthrose, bien que là encore les études n'aient pas permis de trancher complètement. Néanmoins, dans certaines études, le risque serait multiplié par 2 d'arthrose en cas de diabète. Il y a des sites de prédilection qui sont les mains et les genoux. Sixième question de Bruno. Qui me demande si les atteintes cutanées sont fréquentes chez le patient diabétique. Donc la réponse est oui. Les complications cutanées sont extrêmement fréquentes chez le patient diabétique puisqu'elles touchent plus de 50 à 60% de la population diabétique. Donc complications, oui, extrêmement fréquentes. Elles sont de trois types. On peut les catégoriser en trois types. premièrement les dermatoses associées au diabète, c'est-à-dire qui ne sont pas des complications directes du diabète, mais qui, en cas de diabète, mais dont le diabète augmente la fréquence, c'est-à-dire qu'on a dans certaines dermatoses comme la nécrobiose lipoïdique, les granulomes annulaires, l'acanthosis nigricans ou encore le vitiligo, une fréquence plus importante de diabétiques que de patients non diabétiques. Deuxièmement, on a les dermatoses qui sont des complications directes du diabète. Des complications aiguës, c'est essentiellement les infections mycotiques, avec essentiellement deux champignons essentiels, le Candida albicans et les dermatophytes, et les complications bactériennes, c'est-à-dire surtout à coccygramme positif, c'est-à-dire les staphylocoques et le streptocoque. C'est souvent donc des folliculites ou des furonculoses, ou alors on a un autre germe qui est souvent impliqué dans le diabète également, qui est le Corynebacterium, qui est impliqué dans ce qu'on appelle l'érythrasma. Et enfin, ça, ce sont les complications aiguës. Et puis, il y a les complications chroniques cutanées du diabète, qui sont les buloses, ou ce qu'on appelle la dermopathie diabétique, ou encore les complications pseudo-sclérodermiques que l'on retrouve chez des diabétiques anciens et qui ont souvent déjà des complications, notamment micro-angiopathiques. Et enfin, troisième catégorie, les dermatoses liées au traitement du diabète, qu'il s'agisse des toxidermies induites par les antidiabétiques oraux ou des réactions cutanées à l'insuline, qui restent rares, mais qui peuvent exister. Septième question de Rachida, qui me demande si les complications cutanées du diabète surviennent plutôt chez des diabétiques de longue date ou bien est-ce qu'ils peuvent survenir en début de maladie. Donc comme je vous le disais, dans les complications cutanées directement liées au diabète, il y a les complications aiguës, à savoir les infections mycotiques ou bactériennes, et puis les complications chroniques. Alors concernant les complications aiguës, elles ne sont pas liées à l'ancienneté du diabète, mais au déséquilibre du diabète. C'est-à-dire que si vous avez un diabète déséquilibré, eh bien, il y a un risque majoré, comme je vous l'ai dit, d'infection, que ce soit des infections mycosiques ou des infections bactériennes. Et là, ça peut toucher un diabétique nouvellement diagnostiqué. Et ça peut même révéler un diabète si ces infections récidivantes peuvent révéler un diabète. A l'inverse, les complications chroniques type bulose, dermopathie ou complications pseudo-sclérodermiques, elles, touchent préférentiellement les diabétiques de longue date et généralement des diabétiques qui ont déjà des complications, comme je vous l'ai dit, micro-angiopathiques. Mohamed me demande si les complications cutanées du diabète sont les mêmes chez les patients diabétiques de type 1 ou les patients diabétiques de type 2. Donc, concernant les complications aiguës ou chroniques du diabète, elles sont les mêmes chez les patients diabétiques de type 1 ou de type 2. Par contre, pour les dermatoses associées au diabète, c'est-à-dire celles qui sont plus fréquentes en cas de diabète et dont la présence nécessite de rechercher un diabète, là, on a des différences. En effet, la nécrobiose lipoïdique est plus fréquente chez le diabétique de type 1. Il en est de même du vitiligo. En revanche, ce qu'on appelle l'acanthosis nigricans, qui est une sorte de placard d'hyperpigmentation épais qu'on retrouve au niveau de la nuque, qui ressemble un peu à de la crasse, ça, c'est plutôt un marqueur d'insulinorésistance et donc plus fréquent chez le patient diabétique de type 1. Neuvième question de Kaza qui me demande de lui parler de la nécrobiose lipoïdique et des traitements. Donc, comme je vous l'ai dit, la nécrobiose lipoïdique n'est pas une complication directe du diabète, c'est une dermatose associée au diabète, c'est-à-dire qu'elle est plus fréquente chez le diabétique. Elle reste néanmoins rare, puisqu'elle ne touche que 0,3% des patients diabétiques, mais lorsqu'une nécrobiose lipoïdique est diagnostiquée, dans 80% des cas, il s'agit de patients diabétiques. Alors, ce sont surtout, comme je vous le disais, des patients diabétiques de type 1, des patients diabétiques de type 1 souvent anciens et qui présentent des complications oculaires, rénales ou neurologiques. Ça se traduit par des plaques extensives au niveau de la face antérieure des membres inférieurs, des jambes, dont le centre est atrophiant et peut s'ulcérer soit spontanément, soit à la faveur d'un traumatisme mineur. Donc cette nécrobiose lipoïdique, le diagnostic est fait sur une biopsie cutanée avec un aspect de granulome assez typique. Le traitement, ça reste dans beaucoup de cas les dermocorticoïdes. Parfois, on utilise également la corticothérapie orale. Il y a d'autres traitements qui ont été testés, notamment la puvathérapie ou la photothérapie dynamique, et également certains immunosuppresseurs tels que le tacrolimus ou même des études avec des biothérapies type anti-TNF-alpha qui pourraient avoir une efficacité sur la nécrobiose lipoïdique. Noël me demande si les traitements du diabète peuvent induire des réactions cutanées. Donc je vous l'ai dit, la troisième catégorie de manifestations cutanées liées au diabète, c'est les dermatoses liées au traitement du diabète, ce qu'on appelle les toxidermies ou les réactions cutanées liées à l'insuline. Donc concernant les toxidermies aux antidiabétiques oraux, c'est surtout des rashes maculopapuleux ou bien plus rarement des réactions urticariennes qui nécessitent souvent l'arrêt du traitement. Pour ce qui est de l'insuline, les réactions allergiques sont beaucoup plus rares. Ça peut être des réactions des réactions retardées à type de papules inflammatoires en regard du site d'injection qui généralement disparaissent au bout de quelques semaines de traitement sans nécessiter l'arrêt de l'insuline. Plus rarement, c'est des réactions immédiates urticariennes qui là nécessitent en général de passer à un autre type d'insuline. En ce qui concerne les réactions plus systémiques telles les œdèmes de Quinck, ils sont extrêmement rares avec l'insuline. 11e question, quelles sont les causes de la stéatose hépatite non alcoolique? C'est une question d'Alix. Alors la stéatose hépatite non alcoolique, vous savez que c'est une pathologie très fréquente et qui est particulièrement fréquente chez le diabétique puisque 2/3 malheureusement des patients diabétiques ont une stéatose hépatique non alcoolique. Alors cette stéatose hépatique non alcoolique, heureusement 80% des cas, ça se traduit simplement par une stéatose simple, donc non évolutive, mais dans 20% des cas, elle peut évoluer vers des lésions de fibrose avancée, ce qu'on appelle les lésions F3-F4, qui peuvent évoluer vers la cirrhose, voire vers un carcinome hépatocellulaire. Et le risque d'évolution vers des fibroses sévères est évalué chez le diabétique à 5%. Donc, d'où l'importance d'ailleurs chez un diabétique de dépister de manière systématique la stéatose hépatique non alcoolique, même s'il n'y a pas de perturbation du bilan hépatique. En général, on fait un test qu'on appelle le score FIB4, qui dépend du taux de TGO, de TGP, de l'âge et des plaquettes. Et si ce score FIB4 est supérieur à 3,25, là, de manière indiscutable, il faut aller plus loin et faire un examen complémentaire qu'on appelle un fibroscan, qui est en fait un examen comme une sorte d'échographie, totalement indolore, très rapide à faire, et qui permet de mesurer la dureté du foie. Donc on la mesure en kilopascal. Si la dureté du foie est inférieure à 8, on peut s'en tenir là. Si la dureté du foie est supérieure à 12 et a fortiori à 15, là, il faut impérativement envoyer le patient chez un hépatologue. Voilà, donc pour ce qui est des causes de la stéatose hépatique non alcoolique, vous avez bien compris que le diabète est la cause principale. Il y a également le surpoids et l'obésité, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, notamment l'hypertriglycéridémie, tout ça pouvant être retrouvé dans ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Et puis il y a certains médicaments également, certains traitements comme les corticoïdes, certains antirétroviraux, notamment anti-VIH, certains immunosuppresseurs qui peuvent également être responsables de stéatose hépatique non alcoolique. Une autre question de Juanès qui me demande si le traitement de la stéatose hépatique non alcoolique est essentiellement alimentaire ou est-ce qu'il existe des traitements. Donc, comme je vous l'ai dit, la stéatose hépatique non alcoolique est souvent associée au surpoids et à l'obésité. Donc le premier traitement, ça va être effectivement les règles hygiéno-diététiques, à savoir la perte de poids. En général, une perte de poids, même modeste, entre 5 et 10% du poids corporel, permet d'améliorer considérablement la stéatose hépatique non alcoolique. La lutte contre la sédentarité, l'activité physique régulière est également un traitement important. Si le patient est diabétique, on peut évidemment lui conseiller fortement de bien équilibrer son diabète avec certains médicaments qui ont prouvé leur efficacité sur la stéatose hépatique non alcoolique, comme les analogues du GLP-1, notamment le Victoza ou même l'Ozempic, et les inhibiteurs du SGLT2. Notamment le Forxiga ou encore le Jardiance qui vient, je vous rappelle, d'être commercialisé en France. Alors après, il y a d'autres médicaments qui ont été testés, notamment ce qu'on appelle l'ursolvant, qui est une sorte de sel biliaire, mais dont l'efficacité semble faible au vu des études, donc qui est finalement assez peu recommandée. 12e ou 13e question, je ne sais plus, les enfants peuvent-ils être atteints de stéatose hépatique ? Alors la réponse est oui, les enfants peuvent être atteints de stéatose hépatique et c'est même la principale cause de maladies hépatiques chroniques chez l'enfant. Donc il est important chez un enfant en surpoids ou obèse de savoir dépister cette stéatose hépatique et de lutter essentiellement là dans ce cas-là contre le surpoids ou l'obésité qui est la principale cause de stéatose hépatique chez l'enfant. Voilà, donc je crois que j'ai répondu aux questions de la semaine. Je vais maintenant répondre aux questions en direct. Alors, Brigitte me demande de lui parler des atteintes ostéo-articulaires comme la capsulite de l'épaule ou le syndrome du canal carpien et comment les prévenir. Donc je vous l'ai dit, le diabète par l'altération du collagène va affecter les articulations et entraîner des syndromes d'enraidissement articulaire. Je vous l'ai dit aussi, ces syndromes d'enraidissement articulaire ont des sites de prédilection, notamment l'épaule, avec effectivement la capsulite rétractile de l'épaule, qui est une pathologie extrêmement fréquente chez le patient diabétique, environ 4 fois plus fréquente que dans la population générale. Cette capsulite, elle se traduit par une limitation douloureuse de l'épaule, notamment dans les gestes d'abduction, de rotation et dans l'antépulsion de l'épaule. Elle est volontiers bilatérale, alors elle ne touche pas les deux épaules en même temps, elle touche d'abord l'une puis l'autre. Cette capsulite rétractile est volontiers récidivante et très prolongée, donc il est assez difficile de s'en débarrasser. Donc la prévention de la capsulite rétractile, ça reste avant tout le bon équilibre du diabète, puisque la capsulite touche préférentiellement les patients qui ont un diabète déséquilibré, et la lutte contre les complications, puisque là encore, les complications, notamment micro-angiopathiques, vont favoriser l'apparition de ces syndromes d'enraidissement articulaire. Donc le traitement de la capsulite rétractile, c'est la rééducation douce. Il ne faut pas provoquer de douleur, sinon on crée des phénomènes inflammatoires qui aggravent les choses au lieu de les améliorer. On peut injecter des corticoïdes, mais c'est uniquement à visée antalgique. Ça ne joue pas sur l'évolution de la capsulite. Et puis on a la possibilité également, dans certains cas, de faire des capsulodistensions, c'est-à-dire on injecte du sérum physiologique et des anesthésiques dans la capsule articulaire pour donc améliorer les choses. Alors il faut savoir que cette capsulite rétractile, donc ces syndromes d'enraidissement articulaire sont souvent associés, c'est-à-dire quand on a une capsulite rétractile de l'épaule, on a un risque également plus important d'avoir une chéroarthropathie diabétique, d'avoir des doigts à ressaut, un syndrome du canal carpien, ou encore une maladie de Dupuytren. Voilà. Pour le syndrome du canal carpien, donc vous savez que effectivement il est 4 à 6 fois plus fréquent chez le patient diabétique que non diabétique. Il se traduit par des paresthésies douloureuses pardon, au niveau des 3 premiers doigts en général. Et lorsque. Alors le test pour savoir si. Alors le diagnostic est souvent clinique. Parfois on s'aide de l'électromyogramme des membres supérieurs pour confirmer le diagnostic. Et si. Enfin pour savoir s'il faut intervenir, on demande au sujet d'apposer la main sur la table. Donc on fait le test d'extension des doigts. Et si le test est négatif, on peut encore attendre. Si par contre le test est positif, c'est là qu'il faut intervenir. Et on fait souvent donc un traitement chirurgical. On libère en fait le ligament annulaire pour libérer donc le nerf médian. Enfin, on sectionne pardon le ligament annulaire pour libérer le nerf médian, qui est le nerf touché dans le syndrome du canal carpien. Alors ensuite, une autre question, l'hémochromatose est-elle une complication du diabète ? Alors l'hémochromatose, je vous rappelle que c'est une maladie de surcharge du fer qui peut se traduire par un retentissement à différents niveaux, au niveau des organes, puisqu'il y a une surcharge en fer au niveau des organes. Alors en général, l'hémochromatose, elle est d'origine génétique, mais parfois on a ce qu'on appelle des hémochromatoses secondaires, qui peuvent être favorisées par un syndrome inflammatoire. Et souvent, dans le diabète, il y a quand même un état inflammatoire lié souvent au surpoids et à l'obésité. Et on peut avoir des patients qui ont une ferritine augmentée. Mais ce n'est pas véritablement une hémochromatose. Ça peut être un signe simplement d'hémochromatose secondaire. Et le traitement, c'est celui plutôt du diabète. Alors, Leïla me demande s'il faut faire un Doppler artériel lorsqu'on a des lésions bulleuses. Alors, comme je vous l'ai dit, les bulloses chez les diabétiques, ça peut être des complications liées à une fragilité cutanée, donc une complication chronique, une complication cutanée chronique du diabète. Et là, c'est pas du tout lié à un problème artériel, c'est plutôt lié à un problème de la micro-circulation, notamment au niveau capillaire. Donc il n'est pas utile de faire un Doppler artériel en cas de lésion bulleuse. Éventuellement, il vaut mieux plutôt faire un Doppler veineux pour éliminer une insuffisance veineuse, parce que l'insuffisance veineuse peut aussi donner ce qu'on appelle une dermo-hypodermite de stase, qui peut se traduire par des bulles qui ne sont pas des complications directes du diabète, mais qui sont plutôt liées à l'insuffisance veineuse. Nini me demande si la stéatose hépatique est réversible. Donc, comme je vous l'ai dit, oui, si vous la prenez à un stade précoce, c'est-à-dire avant l'apparition de la fibrose sévère, eh bien, elle est tout à fait réversible, avec une perte de poids significative, un meilleur équilibre du diabète si on est diabétique, on peut arriver à rétablir la situation et éviter l'évolution vers des lésions plus sévères. Alors, les mycoses et infections génitales peuvent-elles être dues au diabète ? Donc j'ai en partie répondu à cette question en vous disant que en cas de diabète déséquilibré, on a effectivement une augmentation de la sensibilité aux infections et notamment aux infections mycosiques, notamment à Candida albicans et à dermatophyte. Et on peut avoir effectivement des mycoses génitales. Alors les mycoses génitales, c'est généralement le Candida albicans qui est en cause. Et le traitement de cette mycose, outre les traitements par antimycotiques, ça va être un meilleur équilibre du diabète. Donc, quel examen réaliser pour le diagnostic et le suivi de la stéatose hépatique ? Alors, j'ai en partie là aussi répondu à cette question. Je vous rappelle donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut faire un dépistage systématique chez le patient diabétique par un score qu'on appelle le score FIB4. Et puis, si ce score FIB4 est supérieur à 3,25 ou s'il est compris entre 1,3 et 3,25, mais que le patient a des facteurs de risque importants, eh bien à ce moment-là, on va compléter par la réalisation d'un fibroscan. Si ce fibroscan retrouve une dureté du foie importante avec une valeur supérieure à 12 et a fortiori à 15, on va envoyer le patient chez les pathologues. Alors Alain demande s'il existe plus de tendinite chez le patient diabétique. Donc la réponse est oui. Comme je vous l'ai dit, le diabète affecte le collagène. Donc il y a des dépôts, comme je vous ai dit, de glucose sur le collagène, ce qui affecte donc les structures articulaires, mais également périarticulaires, à savoir notamment les tendons. Donc il y a effectivement une prévalence des tendinites qui est plus importante chez le patient diabétique. Ça peut toucher les tendons au niveau de l'épaule, mais aussi au niveau des doigts et le tendon d'Achille peut être également touché. Enfin, je répondrai à une dernière question de Mostafa qui demande si on peut perdre ses dents à cause du diabète. Alors la réponse est oui. Le diabète, notamment lorsqu'il est déséquilibré, va favoriser l'apparition de la plaque dentaire avec des bactéries qui vont favoriser ce qu'on appelle la parodontopathie, c'est-à-dire un déchaussement des dents. Donc le déchaussement des dents est une pathologie fréquente chez le patient diabétique. Il faut y être particulièrement attentif parce que d'abord le patient peut malheureusement donc perdre ses dents, ce qui est déjà un problème en soi. Mais en plus, le fait d'avoir une parodontopathie, donc avoir des dents qui se déchaussent, ça augmente la résistance à l'insuline et donc ça crée une résistance au traitement du diabète. Donc toujours conseiller au patient d'aller voir son dentiste et de régulièrement faire des détartrages notamment, pour éviter au maximum la formation de cette plaque dentaire et donc ces parodontopathies. Voilà, donc je crois qu'on est arrivé au terme de l'émission. Je vous remercie pour votre écoute et à la semaine prochaine.
Nous sommes ravis de vous avoir accompagné pendant toute cette écoute. Si ce podcast vous a plu, merci de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Suivez-nous sur notre page Facebook Diabète 66 en posant directement vos questions qui seront abordées dans nos prochaines émissions. Rejoignez-nous également sur notre groupe Facebook Diabétique, le groupe de discussion, pour échanger avec nos 9000 membres. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter. Merci à toutes et tous pour votre écoute et à la semaine prochaine.